On commence un tout petit peu en retard, parce qu'il faut aller prendre le temps de l'accueil. Et puis parfois, il y a du retard en cascade. Et on va ouvrir donc notre nouvel espace poétique cette année, en cette saison printanière. Espace poétique avec plusieurs invités qui vont arriver aussi au fil de la journée et de l'après-midi. Tout à l'heure vont nous rejoindre Michel Collot, Jacques Darras et Lesia Tichkovskaya, qui va nous enchanter de sa musique et de ses poèmes en ukrainien et en russe pour la fin de la soirée. Donc on terminera la soirée avec un banquet poétique et musical où vous êtes toutes et toutes conviés. Donc on commencera le buffet, le banquet poétique et musical vers 20h à peu près, puisque Jacques Darras et Michel Collot nous partageront avec nous leur lecture commentée à partir de 19h, entre 19h et 20h. Voilà pour un petit peu le timing de l'après-midi. On fera quelques pauses cet après-midi, dont une pause en mouvement. Nous sommes à l'association Sésame, association qui a 27 ans cette année, que l'on a cofondée avec ma compagne Hilaria, danseuse et aussi philosophe dans l'âme. Donc il y aura forcément quelques touches de danse dans une journée comme celle-là. Et on va commencer l'après-midi avec notre poète invité d'honneur, Daniel Cor, qui va nous parler, que l'on va faire parler, que l'on va faire entendre aussi à travers nos voix, à travers la voix de Colette Klein, qui est donc à la droite de Daniel, à votre gauche, qui est Colette, peintre et poète et écrivaine, et que j'ai rencontrée au Cercle Aliénor. Voilà.
Oui.
Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Cercle Aliénor.
Oui, peut-être.
Que préside actuellement...
C'est la vieille grille, mais c'était après. Peut-être.
Je crois que c'était après, oui. Mm-hmm. Que préside actuellement le Cercle Aliénor, Bernard Fournier, ici présent. Et donc, d'abord Daniel, ensuite Steve Wilfried Mugengi, qui est là, on pourrait dire à double titre aujourd'hui, en tant qu'écrivain, bien sûr, d'abord, avant tout, en tant que poète. Mais aussi en tant qu'éditeur, avec Sarah, sa compagne, qui nous présentera la maison d'édition, la jeune maison d'édition, mais pas si jeune que ça, la Quinfristanaise. Donc leurs ouvrages ont été posés là-bas sur les tables hautes à l'instant, donc peut-être vous avez à peine commencé à les apercevoir, ces ouvrages de la Quinfristanaise. Donc ce sera l'occasion aussi de découvrir une jeune maison d'édition qui déjà nous offre des magnifiques ouvrages par leur facture et par leur contenu. Et donc après, Daniel, dans une première partie, parole sera offerte à Wilfried et à Sarah pour nous présenter, pour nous lire des extraits de l'œuvre de Willy et puis pour nous présenter la maison d'édition. Et puis on retrouvera Daniel dans un second temps de cet après-midi. Ce sera en deux temps, deux volets, pour que les personnes qui vont arriver, on a un certain nombre de personnes de notre association qui nous ont dit qu'ils arriveraient plutôt dans l'après-midi. Dans l'après-midi, qu'est-ce que ça signifie? Sûrement au milieu d'après-midi. Donc pour qu'ils puissent aussi goûter. On va donc entrelacer, métisser un petit peu les paroles de... Tu me permets que je te prénomme Willy?
Ah oui, quand même.
Pour faire un peu plus court. Donc on va entrelacer les voix de Willy et de Daniel cet après-midi. Et puis ensuite, Jaffeios, qui est là, ici présent, nous invitera à un voyage qui nous invitera à nous déplacer de cette salle à la salle Léopold Sédar Senghor, puisque ce sera une présentation avec images, sons, instruments de musique et puis vidéos.
Voilà. Je vous invite à bien vous couvrir.
Oui, voilà. On vous invitera à bien vous couvrir parce qu'on va gagner le Grand Nord. Vous savez qu'on va accueillir un poète qui a un tropisme vers le Nord, c'est Jacques Darras, qui a écrit de nombreux livres en lien avec le Nord et pas simplement le Nord Picard. Il a écrit un livre qui s'appelle Le génie du Nord, Jacques Darras. J'ai oublié de l'apporter d'ailleurs aujourd'hui, mais peu importe. Sa bibliographie est tellement importante. Mais pas... beaucoup plus importante que celle de Daniel Cor, que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui a une bibliographie très impressionnante. Alors je dis deux mots, de Daniel. Et Colette et Daniel vont nous proposer d'abord une première lecture de deux poèmes tirés de l'œuvre de Daniel. Mais tout le monde ne connaît pas Daniel Cohr, n'est-ce pas ? Certains d'entre vous, oui, toi, tu la connais à peine. Daniel Cohr, c'est une constellation. Une constellation aussi en lien avec tes genres d'écriture, en lien avec les activités que tu as déployées autour de la poésie, en lien avec aussi les territoires, les terres sur lesquelles tu ancres ton être et ta vie. Et on verra aujourd'hui que les terres et les territoires vont être un fil conducteur, parce que Michel Collot me disait que le génie du lieu, la poétique des lieux, et je regarde Willy bien sûr, sera quelque chose qui va vraiment être un fil conducteur pour nous cet après-midi. Bien sûr, Jacques Darasotti est un géopoète. Donc la géopoétique va s'inviter dans notre espace poétique aujourd'hui à travers différentes voies. Et Daniel particulièrement est une écrivaine, est une poétesse qui est enracinée dans une terre qui a animé ton âme et qui a été aussi pour toi une ressource intérieure, je dirais.
Oui.
Et cette terre, peut-être tu peux le dire.
C'est une terre, c'est dans l'Yonne, c'est le nord de la Bourgogne, dans la région de Sens, c'est pas très loin de Paris. On peut y aller assez facilement.
Mais c'est et précisément à Villeneuve.
Villeneuve-sur-Yonne.
Tout le monde entend bien ?
Mais j'ai aussi passé une partie de mon enfance en Lorraine. Et c'est là que j'ai appris l'allemand en première langue. Et je n'ai pas choisi. Et ensuite, je suis revenue dans la région parisienne et m'a été imposé l'italien, que je n'avais pas choisi. Mais j'ai découvert, et j'en parlais avec Enza, donc la musique de la poésie italienne qui m'a permis d'entrer dans la musique de la poésie française. Vraiment.
Alors ça, c'est un premier ancrage, un autre ancrage qui est très important pour Daniel. Daniel qui a une œuvre, je vais utiliser une formule que j'ai utilisé récemment d'ailleurs pour Marina Tsvetaeva au Cercle Aliénor. C'est véritablement une formule, je trouve, qui s'applique aussi parfaitement à ton œuvre et qui a fait le titre d'un livre récent sur Victor Hugo qu'a écrit Annie Lebrun, Les arcs-en-ciel du noir.
Oui.
Et l'œuvre de Daniel est une œuvre aussi qui plonge ses racines dans le noir, dans l'obscur, dans... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ?
Je ne sais pas.
Dans l'obscurité, dans les affres de l'existence, dans les épreuves. Et c'est une œuvre aussi, et ça m'a fait penser, je trouve qu'il y a beaucoup de résonance avec l'œuvre de Willy que je continue de découvrir, comme la tienne d'ailleurs. Il y a vraiment des correspondances et des résonances qui sont extrêmement proches. Et c'est ça, cette capacité à transformer l'épreuve en lumière. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, caractérise le cœur de ton œuvre. Et pour ça, tu as plongé tes racines dans cette terre bourguignonne, mais aussi dans les terres de l'enfance.
Ah oui, sans aucun doute, oui.
Les terres de l'enfance qui vibrent dans presque tous tes recueils.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse. Donc, ça m'a permis de franchir beaucoup de difficultés.
Et puis, tu as écrit aussi, avant qu'on fasse la lecture, hein, tu as écrit très tôt.
Eh bien, quand j'ai quitté Lyon pour la Lorraine, où la vie était difficile, c'était au pied des usines, auprès du minerai de fer, mes petites camarades étaient toujours dans l'angoisse quand il y avait des sirènes. Et donc, pour me consoler d'avoir quitté une terre de blé, une terre qui était une terre riche au XIIIe siècle, avec beaucoup d'édifices historiques et anciens. Donc, je suis partie là-bas, dans cet univers de mines et d'usines. Et à ce moment-là, comme j'étais auprès de mes parents dans une librairie papeterie, j'avais tout m'était offert, les livres, les cahiers. Donc j'ai commencé à écrire sur les petits carnets et à faire des dessins à côté. Comme je continue à faire d'ailleurs, quels que soient finalement les,
Voilà, les livres d'artistes que Daniel a apportés pour nous aujourd'hui, dont certains sont presque inédits, hein, que tu n'as pas forcément offert en partage. Parce que quand Daniel crée un livre d'artiste, ben, elle le fait pour elle. Hein, je reprends tes mots.
Ben, oui, parce que bon, c'est un moyen d'expression. Ouais. Le dessin, c'est comme l'écriture. Et bon, ben,
la gravure, là, précisément.
Oui, là, j'ai fait de la gravure, ouais. C'est vrai.
Mais on a aussi des peintures sur soi qui nous entoure.
Oui, avec des
parce
poèmes.
Que toutes les peintures sur soi sont de Daniel, avec des poèmes en plus calligraphiés sur ces peintures sur soi par Daniel elle-même. Vous avez aussi un livre d'artiste là qu'on a accroché avec Bernard tout à l'heure.
Avec le graveur Hélène Baumel.
Avec la graveur.
Ou le graveuse.
La graveuse. Je trouve ça, j'ai du mal moi, excusez-moi.
Oui, moi aussi.
La graveur.
Graveur.
Ça fait bizarre aussi, mais bon. La graveur Hélène Baumel, donc c'est un livre de Daniel Corr, son nom est juste au-dessus du titre, qui est intitulé « À la recherche
de son delta ». Mais moi, j'ai que le petit poème. Voilà.
Et en bas, tout en bas de ce livre d'artiste, il y a un poème de Daniel Corr. Voilà, donc on est entouré. Et puis, il y a ce diptyque hein, que j'ai jouxté là-bas, mais on est entouré de tes œuvres, Daniel. Donc, peinture sur soi, doublée et calligraphiée. Et même doublement calligraphié, parce qu'il y a un écho aussi. C'est doublement calligraphié. Chaque vers est écrit deux fois. Avec un poème de Bernard Fournier et un poème de Daniel Corr. Voilà, sur les deux, sur le diptyque qui est en bleu là-bas. Voilà, donc ça poétise aussi notre espace. Merci à toi, Daniel. Et donc, Daniel, c'est deux choses. C'est les mots et les mains.
Et la main, oui.
Et la main,
ben oui,
comme les mots, c'est deux choses qui t'ont, tu m'as dit ça de mille manières, mais qui t'ont sauvé. Donc cet espace poétique est intitulé « Vivre en poésie ». Et vivre en poésie, c'est vraiment, pour Daniel, une formule qui fait sens.
Oui, sans aucun
doute. En quel sens ? Vivre en poésie, Daniel.
Ben, si je n'écris pas, d'ailleurs c'est dans un poème, si je n'écris pas, si je ne peux pas écrire, je me sens en danger. Donc les mots sont des...
C'était un truc parapente.
Oui, ou des gilets de sauvetage, si j'arrive à les écrire, si j'arrive à les faire venir, ça vient assez... de façon étonnante.
Oui, ça c'est aussi intéressant, parce que c'est... Ça vient plus que...
Ben, je prends mon stylo, quoi, et puis voilà.
Ouais. Il y a presque quelque chose de chamanique, je dirais.
Et après, je me relis pour savoir ce que le poème m'annonce. Parce que je me souviens... Enfin, je regarde un peu un poème comme une boule de cristal, en fait. Je me souviens très bien, j'ai vécu l'incendie de ma maison, et ensuite j'ai retrouvé des poèmes où j'avais écrit que le feu allait venir. Que le feu était présent. Donc j'ai bien caché ça pour l'assureur, hein, parce que je me suis dit, il va penser que j'ai mis le feu à ma maison. Mais j'étais quand même très assez impressionnée de voir qu'il y avait cette annonce du feu. Et souvent, je regarde ce que j'ai voulu dire par les mots qui sont venus. Mais j'ai retrouvé ça dans un livre de Pierre-Thierry Clément, où il dit que le poème annonce quelque chose.
Et ça, c'est vraiment étonnant. Les mots viennent, les mots sont jaillissants chez toi. Et il y a un jaillissement, il y a une traversée, n'est-ce pas ?
Tiens, c'est ce que j'ai choisi là, sur ta page là.
Ah, bah j'ai commencé par. Mais peut-être. Je vais vous le lire avant que Colette et que Daniel vous lisent le premier poème que j'ai choisi. Donc j'ai proposé, j'ai préparé une petite feuille Poésie en archipel avec chacun des poètes invités, des écrivains invités aujourd'hui. Elle est à votre disposition sur la table là-bas. Je ne sais pas si vous voulez peut-être la prendre, l'attraper pour lire en même temps, ou si vous voulez écouter à votre guise. On peut faire passer en même temps. Et j'ai choisi ce poème justement en lien avec ce dont on parle là.
Oui, oui, oui.
Est-ce que tu l'as ce recueil là, Le fil et la trame ? Ici ou pas ? Pas loin ? Non, pas là.
Non, non.
T'as vu, Colette, j'ai même mis une petite citation aussi d'un de tes poèmes de ce recueil que j'aime beaucoup.
Je sais pas quelle page c'est.
Est-ce que vous y êtes ? Virginie, ça va ? T'as pu arriver ? On va continuer d'accueillir les uns et les autres. Et Fabrice, c'est toujours cette attente du mot qui viendra, jaillissant, avec sa face d'inconnu, quelques parcelles de soi insoupçonnées. Toujours cet ailleurs, vers cet ailleurs enfoui. Ces paysages, ces ruissellements qui grondent. C'est toujours cet élan qui bouscule, lave et rince. Les jours noircis, enlève les masques, remet les visages à l'endroit. Alors j'ai choisi aussi ce poème parce que je reviendrai sur cette formule « remet les visages à l'endroit ». Je trouve ça très intéressant et je voudrais la mettre en résonance avec une formule de Georges-Emmanuel Clancier, mais tout à l'heure. Écoutons un autre poème de Daniel par la voix de Colette.
Un mot peut vous jeter hors du nid de l'instant, sur des sentiers désolés que vous aviez fui. Vous êtes brusquement loin, perdu, abandonné, sans pouvoir faire un geste vers quiconque. Pourtant, rappelez-vous, il y a si peu de temps, vous fleurissiez le jour de mille phrases joyeuses.
Et puis c'est toujours important d'entendre la poésie d'un poète par sa propre voix, qu'il soit, on pourrait dire, versé vraiment dans la lecture ou pas. Je trouve qu'il faut entendre le timbre du poète pour... goûter sa poésie.
Toujours des barrières empêchaient l'approche. Les marches de planches où l'on grimpait pour mieux voir ont laissé des échardes, des no man's land dans les regards. En ce poème-là, je me souviens très bien l'avoir écrit après un séjour à Berlin quand le mur était encore édifié et bon, il y avait des échelles pour monter. Et des marches de planches. Et c'est vrai que j'étais douloureusement frappée par la découverte de cette vie. Je venais de mon petit coin de Bourgogne auprès des blés pour arriver là-bas avec ces tirs toutes les nuits pour ceux qui tentaient de fuir le mur au petit déjeuner dans la famille où j'étais. Qui était très proche du mur, mais on comptait les morts, on comptait ceux qui avaient réussi à s'évader. Et c'était donc le poème qui est lié à cela. J'étais montée pour prendre des photos et le père de ma correspondante m'avait tiré en arrière en disant « Mais attention, là, il y a un vaupeau, il va tirer. Vous ne devez pas prendre des photos. » Et c'est le premier poème aussi de « Route que rien n'efface », la page 9, c'est un peu ça. Pièces de soie éparses, saisies à peine, qu'un mur parfois arrête. On revient bien tard. La nuit se couche sur la rue, dans les pétales des fleurs de pommier, où s'est éteinte la mitraille qui, autrefois, hissait du sommeil les visages hagards que l'histoire avait surpris.
Voilà, la poésie de Daniel, c'est du sang, c'est des larmes. Les larmes sont présentes dans ton œuvre. C'est des affres, c'est des gouffres. Et pourtant, Daniel cultive une véritable vocation à la joie. C'est cette double dimension dans son œuvre qui est vraiment très touchante. C'est cette capacité, encore une fois, à plonger ses racines, à ne pas fuir ce qui t'a... bouleversé, agité, écrasé, étouffé.
Oui, c'est le fait de... qu'il y a toujours un espoir malgré les difficultés. C'est plus fort que moi. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit se poursuivre. Oui.
Et d'où tu tiens, d'où tu tires cet espoir? Ou cette joie qui est comme une promesse aussi dans ton œuvre? Il y a cette promesse de la joie aussi, toujours qui affleure, même dans des poèmes qui sont extrêmement difficiles, où on sent que voilà, tu traverses une épreuve qui...
Je ne sais pas trop. Hein.
Se termine par joyeuse, si je me souviens bien. Vous fleurissiez le jour de mille phrases joyeuses.
Il y a beaucoup de joie. Un vent qui vient d'enfance souveraine s'engouffre, m'habille de soleil. Donc, tes ressources. Alors, les ressources, c'est la main, le mot, c'est l'enfance, c'est les terres de l'enfance, c'est les paysages aussi.
Oui, et puis...
C'est la biscotterie.
La biscotterie familiale, oui, où il y avait à la fois les employés, la famille, il y avait toujours beaucoup de monde à table, beaucoup d'odeurs de pain, et puis c'était au bord d'un immense champ de blé, donc à la fois la biscotterie était immense, il y avait beaucoup de gens joyeux, même s'il y avait des difficultés, et il y avait de l'espace. Et cet espace, en Lorraine, au contraire, c'était très, très compté. Les pièces étaient petites, il y avait une arrière-cuisine qui était à la fois une salle de bain, la boutique était petite, et c'est pourquoi j'ai écrit. Je pense que je me suis consolée de l'immensité que j'avais perdue en écrivant. Et l'immensité, je l'ai retrouvée après, à la lecture de Jules Supervielle. Voilà.
Voilà, parce que Daniel, mais comme tous les écrivains, je dirais, ou tous les poètes, ou les philosophes, ou les artistes, c'est pas simplement, on n'est pas, quand on est artiste, on n'est pas simplement une personne. On est une constellation. Et Jules Supervielle, ça fait partie de tes alliés substantiels, de ceux qui t'ont permis de te mettre sur le chemin de l'écriture, de te permettre aussi de te reconnaître aussi comme écrivaine ou comme poétesse.
C'est-à-dire qu'au départ, oui, j'écrivais sur mes carnets, ça devait être des petites histoires illustrées, mais à partir du moment où j'ai rencontré l'univers de Jules Supervielle, bon, qui était né à Montevideo, et puis... qui était orphelin très tôt et qui a fait constamment le voyage entre l'Uruguay et puis le Béarn. Sa famille était basque aussi, basque béarnaise. Et donc, où ses poèmes parlaient de la mer, parlaient du ciel, parlaient de la pampa, et aussi de cette fraternité qui existe entre tous les êtres qu'il crée. Cette fraternité entre les hommes, les animaux, pour moi, ça a été une libération, vraiment une libération, cet univers.
Et puis, les deux autres qui ont compté pour toi dans ta vie?
Ensuite, c'est Georges-Emmanuel Cancier, donc de même, c'est un espace, Georges-Emmanuel, une terre, un enracinement. Et puis, une fascination pour l'enfance. Georges Emmanuel est aussi le poète de l'enfance, enfin, le romancier, l'essayiste. C'est une œuvre considérable et un homme d'une bonté extraordinaire. Et je l'ai rencontré par hasard, si on peut dire. J'avais lu tous les essais, toutes les études des poètes. Tu as trouvé le panorama, mais il y avait aussi d'autres ouvrages.
Oui, il y en a d'autres,
voilà. Oui. Rimbaud, surréaliste. Il avait beaucoup travaillé sur les autres poètes. Et c'était ma lecture, j'ai trouvé que c'était une critique tellement bienveillante et généreuse. Je ne connaissais pas du tout. C'était la poésie et ses environs. Je me suis dit, il est sans doute poète. Et j'ai découvert effectivement qu'il était poète dans la collection Segers. Donc j'ai lu la poésie, et puis après j'ai vu qu'il était romancier. Alors il est surtout connu pour Le Pain Noir, où il a écrit l'histoire de sa grand-mère analphabète, donc 4 tomes sur l'histoire de sa grand-mère. Et à la fin au dernier tome, c'est lui qui lui apprend à lire, c'est assez extraordinaire. Et puis j'ai fini par lire ce qui a tout déclenché, La halte dans l'été, c'est l'histoire d'un grand-père qui, à la fin de sa vie, et qui va redonner le goût de l'existence à son petit-fils désabusé, qui vient des barricades de 68, avec beaucoup d'amertume. Alors, quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis dit, mais il est malade, il va mourir, il faut absolument qu'il connaisse mon admiration. Donc, je lui ai écrit, il m'a répondu par retour du courrier, et ça a été le début de 30 ans d'amitié.
Tu peux montrer le petit Séguère, cela, dans lequel tu as... Tu as attiré
oui, voilà,
quatre vers qui
voilà,
ne cessent de t'habiter.
Quand j'ai découvert cet ouvrage, c'était merveilleux. Et alors, j'ai tourné les pages et je suis tombée sur ces quatre vers qui ont tout déclenché, mon coup de foudre pour son œuvre. Il est d'ailleurs sur le panneau en soie qui est là. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'écrire sur la soie. Je crée à la lisière hautaine de ma fin ce feuillage qui s'ouvre et bat sur des lumières. Et j'écarte ce poids de regard dont les pierres, avec un fol amour, m'ont frappé tout enfant. Et alors, à la fin de sa vie, il a vécu jusqu'à 104 ans, et il me disait, redites-moi les quatre vers qui vous ont conduite à moi. Donc je relisais, je le connaissais par cœur, mais là je préfère lire parce que l'émotion est souvent trop forte. Et donc il ajoutait, quand je lui redonnais ces quatre vers, et il me disait, et ça ne veut rien dire. Et moi je dis, mais il y a tout est là, le feuillage, les lumières, les regards, qui sont, bon c'est vrai, lancés comme des pierres, parce qu'il y a un fol amour, et lui comme moi, il y a cette idée de fol amour pour les mots, et qui m'ont frappé tout enfant, et l'enfant c'est là. Donc à la fois je trouvais qu'il était là, et moi aussi. Voilà.
Tu me disais que tu te sentais dans son œuvre, dans sa poésie, dans ses textes, chez toi.
Oui, même si c'est pas la même terre, même si c'est pas les mêmes références, oui.
Et justement, Georges-Emmanuel Clancier, en lien avec le petit extrait que vous avez entendu tout à l'heure, remet les visages à l'endroit. Ça, c'est quelque chose qui est tiré d'un livre de Georges-Emmanuel Clancier intitulé Évidence.
Évidence, oui.
Et ça, j'aimerais bien que tu nous en dises quelques mots, Daniel, parce que on s'intéresse à la poésie, bien sûr, au-delà du genre littéraire, ici à l'association Sésame. La poésie, comme le dit Georges Perros, c'est une manière d'être, c'est une manière d'habiter, c'est une manière de s'habiter, la poésie. Et je trouve que cette formule, elle est assez étonnante.
Ben, c'est-à-dire qu'il évoque ses débuts dans la poésie. Et alors, chez lui, il y a toujours deux types de caractères, deux voix en lui. Alors, la poésie est résurgence, donc le premier chapitre. Et bon, il parle de son enfance. Ensuite, le deuxième chapitre, la poésie en deçà et au-delà du présent. Et puis, poème ça. Met la vie en ordre.
Alors pourquoi, oui, justement, c'est cette formule-là, le poème met la vie en ordre. Je trouve en résonance avec remet les visages à l'endroit. Qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui te frappe, qu'est-ce qui t'interpelle dans cette formule de... Est-ce que toi, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as vécu? Est-ce que la poésie t'a aidé à te remettre à l'endroit ou de remettre ta vie en ordre ou... Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez toi? Dans ta vie, dans ton œuvre? Ou dans ta vie, grâce à ton œuvre?
Bon,
son œuvre, c'est beaucoup dire, me dit-elle.
Bah oui, non, mais les poèmes, au moins, quand il est écrit le soir, c'est une sorte de bilan de ce qui a eu lieu déjà, et peut-être l'annonce de quelque chose d'autre. Donc, ben voilà, tout s'organise. L'agitation de la journée est terminée, et on regarde autrement à la fois le passé et l'avenir, de façon plus claire. Alors ensuite, qu'est-ce que... Oui, Georges Emmanuel.
C'est intéressant ça, tout s'organise grâce à l'écriture, à la poésie, le soir d'ailleurs, hein, le soir, la
oui,
nuit.
Oui, oui, le soir, la nuit. Oui,
c'est pas une expérience qui est partagée par tous les poètes, tous les auteurs, tous les écrivains.
Bah, pour écrire, il faut quand même un peu de silence et de tranquillité quand même.
Ah bon ? Pas forcément.
Ben, généralement, c'est comme et ça.
Généralement.
Ouais, généralement, c'est ça.
Mais ça remet en ordre.
Et tu vois, quand il dit aussi, des visages viennent d'abord. Le souvenir amène toute chose à la dignité de visage. Sauver les visages.
Oui. Le souvenir
amène toute chose à la dignité de visage. Sauver des visages, bientôt les prendre avec une prière, les aimer par ruse, les caresser, qui est les inventer. On guette la fuite d'être où notre fin se joue. Là, j'ai bien la même idée que l'avenir aussi oui. est là. La poésie tombe de l'oracle au chant. Donc il y a quand même quelque chose qui nous dépasse.
Oui, ça c'est... Ouais.
Même si on n'est pas religieux, il y a quelque chose qui... d'inexplicable.
Et qui vient du tréfonds, qui vient d'ailleurs.
Oui, qui vient d'ailleurs, mais on ne sait pas...
Et qui est révélateur.
Mais c'est ailleurs.
Qui est révélateur.
Oui, qui est révélateur, oui.
Qui apporte de la clarté.
Bien sûr. Et du repos. Et du repos. Au moins, quand j'ai terminé un poème, je dis bon, maintenant je vais peut-être pouvoir dormir.
Parce que souvent, ils ont jailli pendant des nuits d'insomnie. Et alors toi, ton travail d'écriture, c'est le jaillissement de la nuit. Oui. Tu recueilles, oui, on pourrait oui. dire. Et puis après, tu prends acte, je dirais, le matin.
Le lendemain matin, oui, je le mets sur mon ordinateur parce que j'écris à la main. Et je tape après le lendemain matin. Alors, bon, je modifie un mot ou deux, mais pas grand-chose. Bon. Ouais. Je suis comme Colette. Colette, elle est aussi l'écriture du premier jet.
Parce que si tu retouchais, tu aurais l'impression de...
Bah, c'est autre chose. Ça ne traduit plus ce que je voulais dire. Mais on peut jouer avec des sonorités. Il y a quand même peut-être un autre mot qui convient mieux. Parce qu'il est plus dans la musique que le précédent. Mais
très peu de modifications dans
peu,
le passage.
Très peu, très peu, très peu.
Et puis, tu me disais que tu n'aurais pas été connu si un autre de tes alliés substantiels n'avait pas posté tes manuscrits.
Oui.
Et faire que tu obtiennes des grands prix de poésie, parce que Daniel, l'air de rien, alors quand on regarde, je ne sais pas, passe-moi par exemple... Il y a un certain nombre d'ouvrages sur la table là-bas qu'a installé aussi Bernard.
Pas si Richard.
Mais je ne sais pas combien de.
Ben Richard, voilà, c'est ça.
Alors attends exemple. une seconde. On va le nommer. Mais elle a une œuvre poétique qui est déjà très conséquente. Des livres d'artistes, bien sûr. Des livres en prose aussi. Un très beau récit à deux voix. Avec ton grand-père, en lien avec un manuscrit que tu as retrouvé, que j'ai apporté d'ailleurs, hein, vous en avez peut-être quelques exemplaires aussi, ton grand-père qui a fait la guerre 14-18, et puis deux romans historiques, dans la collection Histoire en histoire, Histoire avec un grand H, en histoire avec un petit H et un S à la fin. Donc tu écris aussi voilà, des choses en prose. Tu as participé donc aussi en tant que poétesse à de nombreux livres d'artistes. Oui. Tu as toi-même fabriqué des livres d'artistes à partir de ton double talent, qui est l'écriture d'une part. Je ne sais même pas si talent, je trouve que ce n'est pas un mot qui est adapté pour toi. Je sais pas comment je dirais, mais.
Pratique.
De ta pratique, tu dirais, Hilaria ? Pourquoi pas, oui. Je trouve que ça te va pas, talent. C'est pas une question de talent.
Non,
parce que c'est quelque chose qui est là, qui doit. Ça doit couler de source, à partir de quelque chose qui pousse de l'intérieur, je dirais. Tu me dis si ça résonne ou ça correspond à,
oui,
à ton expérience.
Qui vient, effectivement.
Quelque chose qui vient.
Oui.
Et puis, puis l'autre talent, hein, c'est tout ce que tu fais avec tes mains. Donc ah oui. On les a nommés, hein, la gravure, la peinture, le dessin, la calligraphie.
Calligraphie, non, non, non. Hein, c'est...
Ah bah,
non, 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 c'est l'expression.
La calligraphie avec un grand C, mais ouais. C'est des, quand même des, ouais. Des poèmes calligraphiés sur des soies peintes.
C'est la meilleure façon de me reposer que j'ai trouvée.
Oui. Ouais. C'est sa meilleure façon de se reposer.
Ben oui.
De se poser, je dirais, de se reposer.
Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais.
Et puis, tu as fabriqué aussi des maquettes. Tu m'as montré ça aussi récemment.
Oui, oui. Ouais.
En trois dimensions, des maquettes. Étonnante.
Des petites vitrines comme.
Des petites vitrines, oui.
Oui, avec des petits meubles miniatures, avec. J'ai un tour à bois miniature, je fais des petits meubles. Bon, mais voilà, je me repose avec, comme ça.
Pour moi, Daniel, c'est la main à l'œuvre.
Oui, il ne faut pas que je me casse les poignets.
C'est la main à l'œuvre ou c'est. La main qui œuvre. C'est vraiment toi, ça. Bah, même quand ça écrit.
J'aime beaucoup toutes les activités manuelles, sauf malheureusement la cuisine et le jardinage.
Ouais. Et tu disais dans ta famille, c'était les hommes qui cuisinaient.
Oui, je suis d'une famille de pâtissiers cuisiniers et j'ai vu que les hommes au fourneau. Donc j'ai jamais pensé que ça me revenait. Et j'ai toujours l'impression d'une imposture. Pourtant, je fais la cuisine aussi, mais parce qu'il faut bien manger et que. J'aime beaucoup quand il y a du monde autour de la table.
Donc Daniel, elle a obtenu de nombreux prix littéraires et poétiques plus précisément. D'abord, un de tes premiers recueils, en tout cas c'est le premier sur la liste, L'Arbre de mémoire, qui a eu le prix Jean Follin
oui.
En 1999.
Oui.
Bon, on a des spécialistes de l'histoire littéraire avec nous et qui connaissent bien mieux le prix de ces prix. Il y a eu aussi assez rapidement le prix Poésie sur scène et le grand prix de l'édition pour De clairière en clairière. Je ne sais pas si c'est un recueil que tu as là,
oui,
avec toi.
Oui.
Et puis.
Est-ce
qu'il est noté ou il est noté plus loin ? Il y a eu aussi le prix Troubadour. Alors, ça, c'est un des recueils que je préfère aussi de Daniel, qui a le prix Troubadour d'un pays sous l'écorce. D'un pays sous l'écorce. Les titres sont. Des poèmes. Hein.
Et là, si tu as vu.
Je regarde Willy à ce moment-là parce que c'est la même chose pour toi aussi.
Et là, j'ai une page écrite par Georges-Emmanuel Plancier.
Tout à fait, bien sûr.
Et puis une
et
page.
Et puis par celui qu'on. on va s'acheminer vers lui dans un instant. On va le nommer, on va le montrer. Ensuite, le prix Aliénor en 2004. D'ailleurs, le prix Aliénor qu'a reçu Gilles Baudry, on en avait parlé. Mais
oui.
Tu m'as appris tout récemment que Gilles avait eu le prix Aliénor alors que tu étais présidente du cercle Aliénor, c'était à ce moment-là. Et puis, le prix Simone Landry, en 2004. Donc une série de prix comme ça, jusqu'à arriver à des... Alors le prix, alors ce livre-là, je ne sais pas si tu as... Ce livre-là aussi que j'adore. Regardez ce... Ce petit bijou chez Henri Brémond, publié chez Henri Brémond.
Jacques Brémond.
Mmh. Henri Brémond, c'est un autre. C'est Jacques Brémond, qui a eu le prix de poésie des jardins de Talcy. Donc on est presque en Touraine. On est dans le Blaisois.
Il n'y en a plus des comme ça, mais il va.
Il n'y en a plus des comme ça, mais.
Il va rééditer.
Il va rééditer. Voix venue de la terre. Qui a donc obtenu le prix de poésie des jardins de Talcy. Je ne peux pas citer tous les prix, mais je cite le dernier quand même, qui est un des plus grands prix en poésie, le prix Max Jacob, en 2007. Donc une œuvre, même si elle ne parle pas d'œuvre, hein, mais une œuvre qui a été couronnée de grands prix, et qui n'aurait pas pu être sans ce troisième allié substantiel qui a posté tes manuscrits, qui a cru en toi,
oui,
qui avait foi en toi d'ailleurs, comme Georges-Emmanuel Plancier.
Et qui continue.
Et qui continue parce qu'il est toujours vivant. Et c'est Richard Rognier. Alors Richard Rognier, si tu peux nous dire quelques mots. Colette, je crois que tu le connais bien aussi.
Je le connais, moins que Daniel. Hein.
Je le connais.
nous dire quelques mots de Richard Rognier qui t'a permis de...
Un poète bien connu dans les Vosges, hein. Il habite à côté de Remiremont et il a eu de nombreux prix. Et c'est une écriture, une poésie élégiaque, très, très enracinée dans les Vosges aussi, où il parle beaucoup des animaux, des oiseaux. Mais,
voilà. Alors moi, personnellement, je ne connaissais pas Richard Rognier avant de rencontrer Daniel. Je ne sais pas si vous, parmi vous, vous connaissez Richard Rognier ou pas. Je regarde ceux qui goûtent à la poésie. Voilà, c'est, tu vois, Frédéric, c'est Daniel aussi qui te l'a fait connaître. D'ailleurs, on ne trouve plus... Moi, j'ai demandé récemment dans les librairies des livres de Richard Rognier et de Georges-Emmanuel Clancier. J'ai rien trouvé.
Ben, il faut les commander.
Celui-là, je te le donnerai.
Ah bon, non, mais
tu en as plus.
Je l'ai en double.
Tu en as en double. C'est gentil, voilà. Mais j'aurais pu, je peux le trouver encore. Mais...
Non, mais je te les ai donnés.
Mais voilà, c'est des grands poètes, des grands écrivains qui sont oubliés. Et je trouve que quand on est, je regarde Willy à ce moment-là, quand on est écrivain, quand on a baigné dans les livres comme tu as baigné dans les livres, Willy, ou quelque part tu portes en toi aussi une constellation, aussi notre tâche, notre mission, notre fonction. C'est de porter au jour aussi, de porter au monde aussi ces auteurs, ces écrivains dont certains sont immenses, qui sont méconnus et qui ont peut-être grâce à nous la possibilité de continuer à être, à exister dans l'espace public. Et en tout cas avec Daniel, on proposera avec Daniel quelque chose vraiment à partir de Richard Rognier et de Georges-Emmanuel Clancier à l'association Sésame, mais là dans un cadre un peu plus d'atelier ou d'atelier séminaire, pour qu'on puisse un tout petit peu découvrir, puis moi j'adore ce titre-là, Le paysan céleste. Je trouve que c'est un titre tout taoïste, Le paysan céleste.
Ça serait bien peut-être de lire des poèmes.
Et donc voilà, on va lire un poème peut-être. Colette, tu peux peut-être nous lire un poème de Richard Rognier.
Alors, on avait prévu des poèmes des trois, mais c'est...
Oui, bon, on va revenir, si on va revenir.
Ouais. Richard Rognier, plutôt lequel alors?
J'étais un peu désordonnée là, mais...
Celui-là?
C'est marrant, Colette, parce que toi, tu ne préfères pas être debout pour lire.
Si.
Ben vas-y.
Mais comme vous étiez assis...
Ben non, mais toi, debout pour lire. Moi, j'aime bien quand tu es debout pour lire.
Nous nous sommes assis autour de la table, près de la fenêtre. Un bouquet d'anémones fripées endurait la poussée du temps. Nous étions trois, Georges Emmanuel, Daniel et moi. Et nous avons parler jusqu'aux étoiles, des poètes insoumis, de leur poids de papillons morts, de leur mémoire fatiguée. L'heure passait. Peu à peu, le café se vidait de ses occupants, et nous parlions toujours des poètes, de ce que nous savions d'eux, qui nous rendaient légers. Nous rions quelques vers d'allégresse ou d'espoir, des vers, des mots dont le secret nous emportait sur des rives intactes, où nous aurions voulu déposer nos paroles comme un nouveau bouquet sur la table.
Une autre ?
Non.
Alors peut-être on peut revenir en arrière. Tu nous lis un poème de Georges-Emmanuel Clancier et ensuite de Supervielle, avec la voix de Colette. C'est plus qu'une voix.
Je sais pas. Bon. Tu voulais en lire ?
Ça m'a fait vibrer, hein, Colette. Ouais. Une fois de plus. Oh. Bah, je te le dis.
Assis le soir au bord des villages, voix d'ombre dormeuse ou cascade solaire, c'est toujours avec vous une longue jeunesse, malgré les deuils, malgré la vie. Au cœur de vos paroles, le monde reste clairière, saison promise au fil du silence. Mes amis de campagne, c'est toujours juin pour nous, notre souvenir, les chemins d'herbes et de jacinthes, les foins qu'on fane dans l'odeur de la joie. La rue devient forêt, devient rivière. Les hommes sur leur poussière sont dignes de l'amour, mes amis, au soir de la longue journée.
Très bien.
Oui, ça c'est
Georges. Je suis pas facile. Viendra-t-il celui clair comme feuille au printemps, qui gardera toute la vie les mots de passe de l'enfance? Il portera le monde, appel en son cœur jamais épuisé, la chevelure emmêlée de chemins et de fleuves, l'immobile émeute des fleurs, des pierres, des étoiles, le silence où guettaient les aveux de nos jours. Sans regret, sans ombre, ange aux ailes de vent, mais qui frôle la rude fresque de la terre, sa chair ornée des balafres de l'amour, de la mort, qui nous ont déchirés, songe bien trop fragile. Il chantera cet hymne d'aube, à pleine voix, à plein regard, qu'obscurément, tassé sous notre nuit, nous aurons balbutié.
Et puis un de Jules Supervielle. On remonte dans le temps, là, par rapport à notre propos.
Protégeons de la main ta lumière, mon cœur, qu'entourent sans merci les grands seigneurs du vent. S'amusent à vouloir souffler cette bougie, j'avance malgré tout, au milieu de leur rire, et toujours espérant qu'ils m'oublieront un peu. Au plus fort de ma nuit, je me prouve mes forces. Ce cheval qui s'élance est parti de mes yeux, il ne reviendra plus au fond de mes paupières. Et ne soupçonnant pas qui lui donna le jour, il cherche autour de lui, perdu dans son galop, mais il vit, voyez-le, soulevant la poussière.
Il y a une chose que qu'on n'a pas dite qui a été quand même très importante dans ta vie, Daniel, avant qu'on donne la parole à Willy Fried et à Sarah dans quelques minutes. C'est que tu as été aussi une passeuse, tu as aussi été une semeuse. Et ça, c'est vraiment déterminant dans ta vie. C'est déterminant pour la vie et c'est déterminant aussi pour le monde. Tu as été une passeuse de poésie, tu as été une semeuse aussi de graines, de poète en herbe, puisque tu as animé pendant 30 ans des ateliers de poésie jeunesse et des ateliers de poésie aussi pour adultes. Et encore aujourd'hui, je le confiais à quelques amis tout à l'heure avant que l'on ne commence, tu me disais récemment que tu recevais encore aujourd'hui des lettres de tes anciens élèves, des lettres extrêmement, dont certaines que tu m'as lues, qui sont extrêmement poignantes par rapport à ce que tu leur as apporté en tant que pédagogue, en tant qu'animatrice d'ateliers d'écriture, de poésie, pour la jeunesse et pour les adultes. C'est pour ça que sur la table où j'ai posé mes livres, j'ai posé aussi quelques recueils de Daniel qu'elle a imprimé ou édité.
On a fait maison, là.
Vous avez fait maison, mais aussi vous avez le recueil qui a été publié aux éditions L'Harmattan, donc de ses élèves, qui s'intitule Source. Ça, c'est aussi extrêmement précieux. Et c'est un travail dont tu peux peut-être nous dire un tout petit mot.
L'importance que
ça a eu dans ta vie, l'importance aussi que ça a eu pour les autres.
Moi, c'est vrai que c'était très important. J'ai animé pendant presque 30 ans... un atelier de poésie pour des enfants avec des âges différents, dans la mesure où ils aimaient les mots, et bien qu'ils viennent, et il n'y avait pas d'appel ni rien. Et même un jour, il neigeait dehors, je me dis, oh, ils jouent aux batailles de boules de neige, ben, ils ne vont pas venir à l'atelier. Or, ils étaient là, toujours, et on mettait en commun, bien sûr, l'écriture, et les petits, ceux de sixième, disaient en écoutant les créations des élèves de première ou de terminale, oh, on comprend rien, mais comme c'est beau. Et les grands écoutaient les petits en disant, la relève est assurée, on peut partir.
Ça, c'est intéressant.
Oui. Et c'est vrai que j'ai des lettres qui me disent, donc des jeunes déjà engagés dans la vie active, et qui me disent, grâce à l'atelier de poésie, on a gagné beaucoup de temps, on a appris à se connaître et on n'a pas fait d'erreur d'orientation. Voilà, ça c'était quand même très surprenant. Et puis aussi, j'avais animé un atelier dans un lycée professionnel avec des jeunes qui venaient de tous les coins du monde, et c'était des pays en guerre souvent, où ils étaient parfois sans leurs parents, et les enseignants m'avaient demandé de les faire écrire sur le pays d'où ils venaient, afin qu'il y ait un peu une libération de ces douleurs. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de phrases bien structurées. Et en poésie, ils ont réussi donc à écrire des textes magnifiques qu'on a aussi édités, reliés. Et ce qui était très étonnant, je n'oublierai jamais, c'est que les profs qui assumaient ensuite les cours pour ces jeunes-là disaient « Mais qu'est-ce qui s'est passé avant nous ? Ils ont perdu leur violence. » Alors, moi je me disais, si un ministre de l'Éducation nationale comprenait que la poésie pouvait faire tomber la violence d'être en détresse, et bien vraiment, ça serait magnifique. Hein.
Ah, les vertus de la poésie.
Mais oui. Oui, c'est ça. Mais il faudra les traduire.
Alors, avant que on retrouve Steve Wilfried Mungangi, peut-être un mot d'un recueil qui résonne aussi avec le récit, qui est en lien avec ta mère, avec ta maman. Parce que Daniel a aussi écrit un livre qui s'adresse, ou qui porte la voix aussi de sa mère, et qui s'intitule... Il est là, je l'ai vu tout à l'heure, hein, je crois l'avoir vu. Il est peut-être pas loin. Non, il n'est pas là. Non, non, c'est pas celui-là. Peut-être tu peux nous l'attraper, Bernard. Merci, Bernard. Il doit être dans la valise, peut-être.
Il était brut, hein.
Non, c'est pas celui-là.
On l'avait tout à l'heure, oui.
Mais bon, il me semblait qu'on l'avait. Ah, il est peut-être dessous, là. Ah, il est là. Ah, il est là, il est là. Il est là. On l'a trouvé, Bernard. On l'a trouvé. Debout. Alors, le titre est magnifique, je trouve qu'il résonne parfaitement avec... Tu peux nous dire le titre du récit, toi, ce titre qui est un poème en lui-même ? Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde. Donc ce livre qui a été récompensé en quelle année, cette année, l'année dernière ?
2023.
En 2023, le livre de Steve Wilfried Mungangi qui a été récompensé du prix FEDCAN, Maryse Condé, et qui est, je trouve, vraiment en lien avec « Debout dans la mémoire ». C'est vraiment, je trouve, quelque chose qui s'applique parfaitement à ce que tu as partagé avec nous à travers ton livre.
Très beau livre, j'ai adoré.
Ouais, Colette a adoré, et moi aussi. Et Hilary aussi, mais elle est partie accueillir sûrement quelqu'un. Donc, je sais pas, tu peux nous lire peut-être deux poèmes, et après, on accueille Willy, après une courte pause. Deux poèmes tirés de ce recueil. Un lu par Colette, ah bah oui, ah bon. Et un lu par Daniel.
Elle boit la lumière au bord de la rivière, la jeune fille oubliée par le temps. Elle sera ma mère, mais ne le sait pas encore. Ses gestes sont confiants. Elle traverse les eaux longues du lent mouvement de ses bras, gagne l'île aux roseaux, sans penser aux conseils de prudence qui plus tard glisseront de ses lèvres. Grand est son désir de se mesurer au flot, qu'elle défie sans crainte, sans l'hydre d'épouvante dont elle tordra le cou plus tard tant de fois. Tant de femmes en elle sont à naître, dans ces jours fragiles de 1939. La rivière roucoule sous le pont, les algues, les feuilles tombées laissent passer sa jeune gloire rieuse.
Bienvenue. On n'est pas sur un podium, c'est pas formel. Donc, votre prénom ?
Marie-Claire.
Bienvenue, Marie-Claire. Un deuxième poème, donc, tiré de ce recueil. Debout. C'est beau, ça, hein, parce que je trouve que c'est vraiment la présence absente. Comment aussi ceux qui ont compté pour nous peuvent nous permettre de tenir intérieurement ou de nous offrir cette verticalité intérieure.
Sentinelle blanche dans l'aube grise, elle offre son sourire avec le journal qu'achète le premier client en route pour l'usine. Dérisoire blouse blanche, face aux feuilles fraîches encore, de l'encre des rotatives. Blouse blanche que grisent les heures. Blouse blanche, éclat de mémoire, quand tournent les feuillets et volent au vent les nouvelles urgentes déjà périmées dont elle est la servante. Courage blanc face à l'accueil, ses bras portent la presse vivante.
Merci Daniel. Alors je vous rappelle, si vous voulez à la pause prendre les deux feuilles que j'ai préparées pour vous, dont la préface de Georges-Emmanuel Clancier à ce livre « Voix venue de la terre ». Donc je vous ai mis la première de couverture et puis aussi la préface de Georges-Emmanuel Clancier. Aujourd'hui, à l'espace poétique de Sésame, c'est sous le signe de la rencontre. Donc on aura l'occasion de retrouver aussi Daniel, déjà un autre moment de notre après-midi, après Wilfried. Et puis, bien sûr, on aura l'occasion de l'inviter dans d'autres espaces de notre association pour qu'on puisse véritablement, là, plonger dans son œuvre, échanger, discuter à partir et autour de son œuvre. Je vous proposerai de vous donner la parole tout à l'heure si vous voulez lui adresser quelques questions, mais peut-être dans le second temps de son intervention, si vous permettez. Mais aujourd'hui, c'est sous le signe de la rencontre, donc avec Daniel Corr, qui est la première à avoir ouvert le bal. Merci à toi aussi, Colette, d'avoir prêté ta voix, mais tu seras encore...
Merci de m'avoir accueilli.
Mais tu seras avec nous jusqu'au banquet poétique et musical. Donc, Steve Wilfried Mugengi, maintenant, qui va venir à la table avec Sarah, qui va nous présenter la maison d'édition. On prend 5 minutes de pause. Et puis, ensuite, Jafeios, qui est là et qui nous invitera donc à migrer dans l'autre salle, là-bas, la salle Sangor.
Un bain de fraîcheur.
Pour un bain de fraîcheur, comme tu le dis, Colette. Et puis, Jazz arrive.
Et même si c'est 5 minutes, il y a du café, il y a de l'eau chaude. C'est possible.
Exactement, bien sûr. Et puis vous avez les ouvrages, bien sûr, de nos poètes, de nos écrivains, si vous voulez en acheter un, si vous voulez une dédicace, eh bien rejoignez-les dans notre salon de présentation des livres et dans notre salon de dédicace qui est celui-là, on va le désigner comme ça. Hein, tu vois Virginie, on a